C'est l'heure des chroniques amnestiennes dans votre créneau Mondophonie. Une émission proposée par le groupe Amnesty International Albi.
Auditeurs de Radio Albigès, bonjour. C'est le groupe d'Amnesty International d'Albi qui vous présente son émission mensuelle, les Chroniques amnestiennes, une émission sur les droits de l'homme dans le monde. Aujourd'hui, Patricia, Zakar et Jean-Marie animeront cette émission. Bonjour. Nous commencerons cette émission à l'occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort en expliquant pourquoi il faut abolir cette peine de mort. Nous évoquerons le sommet mondial des défenseurs des droits humains qui risquent parfois leur vie pour défendre celle des autres. Ce sommet mondial se tient à Paris à la fin du mois d'octobre et il rassemblera plus de 150 défenseurs de tous les pays. Nous vous proposerons ensuite de soutenir des défenseurs qui sont pour l'une et l'autre en Égypte et en Arabie Saoudite. On en parle pas mal en ce moment. Deux pays où il ne fait pas bon agir pour les droits de l'homme. Après une pause musicale, nous vous donnerons quelques bonnes nouvelles avant d'aller en Chine pour parler des camps de rétention ou de détention pour la population musulmane. Et enfin, nous terminerons notre émission sur l'attribution du prix Nobel de la paix qui nous réconforte bien dans toutes nos actions. Le 10 octobre dernier avait lieu la Journée mondiale contre la peine de mort, Patricia. Donc Amnesty mène ce combat depuis longtemps.
Oui. Pour Amnesty International, la peine capitale viole le droit à la vie, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agit du châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. Lorsque l'ONU a été créée en 1945, 8 pays seulement avaient aboli la peine capitale. Aujourd'hui, 144 États l'ont abolie en droit, en fait 104 pays en droit, et ou en pratique, aucune c'est-à-dire ceux qui n'ont procédé à aucune exécution depuis au moins 10 ans. Ils n'ont pas aboli, mais bon, c'est quand même pas mal.
Oui.
Le dernier État à avoir supprimé la peine de mort est le Burkina Faso en 2018.
Oui, c'est très récent.
56 États appliquent encore ce châtiment inhumain. En 2017, le rapport d'Amnesty International a recensé 993 exécutions et 2593 condamnations à mort. La plupart de ces exécutions ont lieu en Chine, en Iran, en Arabie Saoudite, en Irak et au Pakistan. Les États-Unis, qui se placent maintenant en sixième position, ce qui est beaucoup mieux parce qu'avant ils étaient en quatrième, la peine de mort continue de diviser les Américains. Le Nord-Est est abolitionniste, 20 États, et le Grand Sud, 30 États, perpétuent cette pratique abominable. Donc c'est encore majoritairement pour la peine de mort. Cependant, les Américains sont de moins en moins favorables à la peine capitale, et si les condamnations sont toujours prononcées, elles sont de moins en moins exécutées. Mais ça soulève quand même le grave problème de ces malheureux condamnés qui attendent des années, 36 ans le dernier, dans le couloir de la mort. Il faut donc continuer à se mobiliser contre cette sanction barbare et archaïque. À cette fin, voici un petit argumentaire pour répondre à ceux qui sont pour la peine de mort. Exemple,
eh bien, les victimes des crimes violents et leurs familles ont droit à la justice.
Bien sûr, elles ont droit à la justice. Ceux qui ont perdu des êtres chers dans des crimes terribles ont le droit de voir les responsables rendre des comptes dans le cadre de procès équitables, sans obligatoirement recours à la peine de mort. En s'opposant à ce châtiment, il ne s'agit pas de réduire l'importance d'un crime ni de le cautionner. Cependant, de nombreuses familles ayant perdu des êtres chers affirment que la peine de mort ne permet pas réellement de soulager leur souffrance. Elle ne fait qu'étendre la souffrance de la famille de la victime à celle du condamné. Deuxième argument.
La vengeance n'est pas une solution. La réponse consiste à réduire la violence et non à donner encore la mort.
C'est ainsi que Mary Deans, dont la belle-mère a été assassinée en 1972, a dit que exécuter une personne parce qu'elle a pris la vie de quelqu'un d'autre, c'est une vengeance. Cela n'a rien à voir avec la justice. Une exécution, ou la menace d'une exécution, inflige une terrible cruauté physique et psychologique. Toute société qui exécute des délinquants se rend responsable de la même violence que celle qu'elle condamne.
Oui, mais la peine de mort, c'est pour lutter contre la criminalité.
D'après les recherches, non. Il n'existe aucune preuve crédible que la peine de mort soit plus dissuasive qu'une peine d'emprisonnement. En fait, dans les pays qui ont interdit la peine de mort, les chiffres relatifs à la criminalité n'ont pas augmenté. Dans certains cas, ils ont même baissé. Au Canada, le nombre d'homicides en 2008 était inférieur de moitié à celui de 1976, lorsque la peine de mort y a été abolie.
Bon, et la peine de mort pour les terroristes ?
Oh, alors ça, c'est le pompon, j'ai envie de dire. Les gouvernements ont souvent recours à la peine de mort à la suite de violentes attaques pour démontrer qu'ils font quelque chose pour protéger la sécurité nationale. Mais il est peu probable que la menace d'exécution arrête les hommes ou les femmes prêts à mourir pour leurs convictions. Comme ils vont se faire sauter, qu'est-ce que ça peut bien leur faire d'être probablement condamnés à peine de mort. Bon, ils sont suicidaires et ils n'en ont rien à faire. De toute façon, c'était aussi aberrant de les menacer de la peine de mort que de dire qu'ils allaient être déchus de la nationalité. Non. Il est en revanche fort probable que des exécutions en face des martyrs, dont la mémoire contribuera, ils vont devenir des héros. Et, hein. Les personnes accusées de terrorisme sont particulièrement susceptibles d'être condamnées à mort à l'issue de procès iniques. C'est ça aussi. Ce ne sera pas un véritable procès conforme au droit. Beaucoup d'entre eux sont condamnés à mort sur la base d'aveux extorqués sous la torture, donc ce qui ne donne pas vraiment une très belle image. Dans certains cas, des tribunaux spéciaux ou militaires instaurés par des lois antiterroristes ont condamné à mort des civils au mépris des normes internationales. C'est donc un moyen facile, utilisé par des responsables impuissants, en fait, pour faire croire à leurs électeurs apeurés qu'ils luttent contre la criminalité.
Il vaut peut-être mieux exécuter quelqu'un plutôt que de l'enfermer à vie.
Ah, ça c'est aussi l'aberration, parce que quand on condamne quelqu'un, même à perpétuité, il y a toujours un espoir, un, qu'il s'amende, deux, qu'il recouvre la liberté, parce que au bout d'un certain temps, on ressort de prison. C'est vrai que c'est le système judiciaire qui a fait le choix de la vengeance plutôt que de la réinsertion n'est pas responsable, à mon avis. Tant qu'un prisonnier reste en vie, il peut espérer une réinsertion ou espérer être disculpé. Regardez ce qui s'est passé avec l'ADN.
Oui.
On a trouvé des coupables qui n'étaient pas ceux qui étaient condamnés à mort, heureusement. Donc ça peut être une chance aussi, ça.
Non, mais il existe aussi des méthodes d'exécution rapides, humaines et indolores.
Toute méthode d'exécution est inhumaine. L'injection létale est souvent présentée comme un peu plus humaine parce qu'en surface, tout au moins, elle semble moins grotesque et barbare que d'autres méthodes comme la décapitation, l'électrocution, le gazage ou la pendaison. Mais regardez ce qui s'est passé avec les produits injectés, qui n'étaient pas bons. Mmh. Et je sais qu'il y a eu un condamné aux États-Unis qui a mis 8 minutes à mourir.
Souffrance, c'est absolument atroce. Oui.
Donc il n'y a aucun moyen humain d'ôter la vie. Mmh. Ça n'existe pas.
Bien sûr. Mais les gens sont quand même favorables à la peine de mort.
Oui, j'ai envie de rayer alors. Un soutien appuyé de la population à la peine de mort va souvent de pair avec l'absence d'information. Parce que les gens ne sont pas au courant. ils pensent la plupart du temps que ça va réduire la criminalité. Ce qui est faux, comme on l'a vu tout à l'heure. De nombreux gouvernements sont enclins à promouvoir ce leurre, alors qu'aucun élément probant ne vient l'étayer. Nous pensons que les gouvernements doivent s'ouvrir à l'information afin d'éduquer un peu l'opinion publique, essayer de les faire évoluer contre cette notion primitive de vengeance. C'est complètement primitif. Et il faut prôner le respect des droits humains grâce à des programmes d'éducation publique. Et surtout, il faut toujours se dire que quand condamner quelqu'un à mort, on peut se tromper.
Toujours.
Absolument.
Voilà, donc le combat continue, il faut continuer. Et il y a une bonne nouvelle qui vient de tomber, c'est que la Malaisie est en train d'abolir la peine de mort, ce qui est un bon point. Malheureusement, le parallèle, c'est que dans un état des États-Unis qui s'appelle l'Utah, ils avaient suspendu les exécutions parce qu'ils faisaient des injections et ça n'allait pas. Mais bon, ils ont repris. Et alors, barbarie, parmi les barbaries, c'est un peloton d'exécution.
Eh oui.
Voilà. D'accord. Donc, ce n'est pas terminé. Hein.
Événement qui se produit là ces jours-ci, donc bientôt fin octobre, le 29, 30 et 31 à Paris, donc le sommet mondial des défenseurs des droits humains. Aujourd'hui, il faut penser que les conflits et la peur sont de plus en plus utilisés pour répandre la violence et les divisions, ainsi que pour réduire la société civile au silence partout dans le monde. Certains pays tournent le dos à la solidarité et à la justice, et les défenseurs des droits humains sont de plus en plus victimes d'attaques et d'actes de harcèlement et d'intimidation, de surveillance, de censure, de détention arbitraire, de disparition forcée. Ils sont même parfois assassinés uniquement pour avoir défendu la justice. En 2017, 312 ont été tués. En 2016, 281. Donc ce sont des chiffres quand même énormes, je trouve.
Ah oui.
Alors qui sont ces défenseurs des droits humains ? Eh bien, ce sont des personnes de tous âges, de tout genre, de toute identité, des enseignants, des étudiants, des ouvriers, des journalistes, des avocats, enfin voilà, des gens qui œuvrent d'une manière spécifique pour la défense des droits humains. Ce sont des personnes qui s'élèvent contre toutes les formes de discrimination afin de faire progresser les droits fondamentaux et de créer des sociétés plus justes et plus incisives. On a souvent évoqué dans cette émission un certain nombre de personnes que Amnesty a défendues, et qui ne sont pas forcément d'ailleurs libérés, mais qui sont des défenseurs. Enfin, il suffit de penser en Arabie Saoudite à Raif Badawi, par exemple, actuellement. En Turquie, une avocate, Irene Keskin, enfin, et bien d'autres, quoi. Donc, face à l'ampleur des réactions adverses et violentes que subissent actuellement les défenseurs des droits humains, ce sommet va constituer une plateforme internationale qui va leur permettre de faire entendre leur voix, de travailler sur les stratégies et les actions à venir, et de lancer un appel à la communauté internationale et à ses acteurs dans toute la diversité, afin qu'ils renforcent considérablement leur engagement pour la protection et la promotion du travail des défenseurs partout dans le monde. Donc il y aura plus de 150 défenseurs à Paris dans ce sommet, avec des participations d'un certain nombre de personnes de haut rang, on va dire, puisqu'il y aura Michel Bachelet, qui vient d'être nommé il n'y a pas très longtemps, donc haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le secrétaire d'Amnesty International, qui vient d'être aussi nommé il n'y a pas très longtemps, Kim Nédou, et puis le rapporteur spécial attaché à l'ONU sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Michel Forst, qui a été, je crois, un des présidents d'Amnesty International à certaines époques. Donc je crois qu'on est assez bien représenté. Il faut savoir quand même qu'il y a 5 ou 6 organisations qui sont parties prenantes de ce sommet. Amnesty en est un, mais il y a la Fédération, la Fédération internationale des droits de l'homme, oui, la FIDH, et puis, alors je n'ai pas les noms des organismes en tête, enfin, les Reporters sans frontières, je ne sais pas si Human Rights Watch. Enfin, il y a 6 ou 7 organismes qui sont organisateurs, et il y a bon nombre d'organes de presse qui sont après partenaires pour suivre ce sommet. Donc je pense qu'on devrait en entendre parler dans la presse, les grands médias, sous peu. Alors, Ce sommet mondial, il 2018, il intervient 20 ans après le premier sommet mondial, parce qu'il y en a eu un en 98. C'est au moment où a été reconnue cette situation particulière de défenseur des droits humains à l'ONU. Il y a eu une déclaration spéciale. Et donc, il y a eu un premier sommet mondial qui s'est tenu aussi à Paris. Et il y avait, alors j'ai pas les chiffres, mais enfin bon, un certain nombre de personnes qui étaient venues un peu comme là, des quatre coins du monde, pour faire se rencontrer, exister, parce que c'était quand même le début, tracer les grandes lignes des conditions nécessaires à l'application de cette déclaration. Donc le sommet de 98 a quand même contribué à dessiner un monde dans lequel un large éventail d'institutions et de fondations soutiennent le travail des défenseurs. Alors, en deux mots, les objectifs de ce sommet mondial. Bon, c'est de permettre les progrès, d'abord de célébrer les progrès qui ont été réalisés depuis 20 ans, et puis de se tourner vers les 20 prochaines années. C'est-à-dire que dans 20 ans, dans 2038, bon, est-ce qu'il y aura pas une nouvelle génération de défenseurs des droits humains ? Eh bien oui, dans la mesure où il y aura si on peut l'espérer, une ère de sécurité et de protection qui est en cours. Donc peut-être que leur situation sera un peu différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Alors plus particulièrement, deux points. Donc ce sommet-là, de fin octobre, va rendre hommage au rôle essentiel des droits des défenseurs qui font progresser les droits humains, parce que, on a cité les risques qu'ils prennent, mais en fait, les droits humains progressent quand même. Alors c'est dans le développement durable, c'est dans la démocratie, l'état de droit. Enfin bon, il y a plein de domaines dans lesquels ça progresse. Ce sera une façon de rendre hommage à l'attention du public qui, lui, subit les menaces, les violences. Enfin bon. Et puis, deuxième aspect, c'est de réitérer l'appui aux États qui ont lancé ce sommet pour qu'ils remplissent leurs obligations en vertu du droit international, parce que c'est quand même eux d'abord qui doivent appliquer le droit, et qu'ils fassent respecter, en particulier, le droit à la liberté d'action des défenseurs des droits humains, puisque c'est un des points de cette déclaration de Paris de 1998, afin que ces défenseurs connaissent un environnement sûr et qui leur permette de mener leur travail sans qu'ils soient emprisonnés, battus, torturés, battus ou assassinés. Donc ça nous semblait important de parler citer ce sommet mondial, d'autant plus que Amnesty a déclenché depuis déjà un moment une campagne pour la défense de ses défenseurs. Donc pour concrétiser un petit peu ça, un premier exemple de personnes qui sont dans cette situation d'être défenseurs des droits humains en Égypte.
Oui, tout à fait. Effectivement, la défenseur des droits humains égyptienne, donc Amal Fati, elle a été arrêtée arbitrairement et a déjà passé 141 jours plus de 141 jours derrière les barreaux. En fait, elle a été condamnée le vendredi 29 septembre à une peine de 2 ans d'emprisonnement assortie d'une possibilité de libération provisoire contre une caution de 20 000 livres égyptiennes, ce qui correspond environ à 1 120 $ des États-Unis.
C'est énorme, quoi.
Ainsi qu'à une amende en plus, donc une amende de 10 000 livres égyptiennes, ce qui correspond à 560 $ des États-Unis également. Donc c'est quand même des sommes conséquentes. Et puis une condamnation, vous allez voir les faits, hein, une condamnation qui n'est, selon Amnesty, absolument pas justifiée. En fait, cette personne, donc Amal Fati, cette égyptienne, elle a donc son crime, c'est simplement d'avoir mis en ligne sur Facebook une vidéo dénonçant le harcèlement sexuel en Égypte et en reprochant aux autorités égyptiennes de ne pas protéger les femmes, ce qui est objectivement un fait, en fait. Donc les forces de police égyptiennes ont arrêté Amal Fati le 11 mai dernier, donc aux premières heures, hein, en compagnie de son mari Mohamed Lotfi, donc, qui est d'ailleurs un ancien chercheur d'Amnesty International, hein, comme par hasard, et actuel directeur de la Commission égyptienne pour les droits et les libertés. Donc c'est une ONG égyptienne de défense des droits humains. Hein. Donc voilà le contexte. Donc le couple ainsi que leur enfant âgé de 3 ans ont été conduits directement au commissariat de Mahadi. Donc au Caire en fait. Mohamed Lotfi, donc son mari et ainsi que le jeune enfant ont été relâchés au bout de 3 heures, mais pas Amal Fati donc, qui est toujours en détention. Ainsi, les poursuites engagées à son encontre ne représentent pas un cas isolé, hein, mais font partie d'une campagne de répression massive à l'encontre des défenseurs des droits humains en Égypte. Ça, c'est un fait. Donc, depuis décembre 2017, nous avons Amnesty a recensé au moins 111 cas de personnes détenues par l'Agence de sécurité nationale pour avoir simplement critiqué le président et la situation des droits humains en Égypte. Donc voilà, ce sont des centaines de militants politiques, de journalistes, de défenseurs des droits humains, comme on a dit tout à l'heure dans le sens général, d'opposants, d'artistes ou même de fans de football qui sont actuellement derrière les barreaux pour avoir osé s'exprimer. Donc c'est quand même un courage qui est condamné, puisqu'ainsi Amal Fathi fait face à une condamnation honteuse qui sanctionne son courage de s'exprimer publiquement contre le harcèlement sexuel. Il s'agit d'un cas flagrant d'injustice puisque la victime en l'espèce est condamnée, tandis que l'auteur, puisqu'elle parle, il s'agit d'une histoire de harcèlement sexuel, donc l'auteur des faits, l'homme en question du délit, reste en liberté. C'est une, donc pour Amnesty, c'est une défenseure des droits humains, on le redit et on le redit, victime de harcèlement sexuel qu'elle a dénoncé, qui a souhaité faire donc connaître au monde sa vérité, attirer l'attention sur la question cruciale de la sécurité des femmes en Égypte, qui ne va pas du tout. Donc ce n'est pour nous ni une criminelle, et elle n'a rien à faire en prison. Elle ne devrait pas être sanctionnée pour son courage en tout cas. Nous avons demandé donc une nouvelle fois aux autorités égyptiennes de libérer immédiatement et sans condition Amal Fathi, et ainsi que d'abandonner bien sûr toutes les charges retenues contre cette femme, qui ne sont, selon nous, pas justifiés du point de vue du fond. Donc son placement en détention pour avoir exprimé pacifiquement ses opinions constitue pour nous un affront au droit et à la liberté d'expression, pourtant garantie par la constitution égyptienne et par les obligations internationales de l'Égypte. Enfin bon, et va à l'encontre, bien sûr, des engagements répétés des autorités de combattre le harcèlement sexuel. Donc il y a la façade et puis il y a les faits. Hein. Il est donc actuellement plus dangereux que jamais dans l'histoire récente de l'Égypte de critiquer le gouvernement. On le voit donc sous la présidence d'Abdel Fattah al-Sissi, les Égyptiens sont traités comme des criminels simplement parce qu'ils s'expriment parce qu'ils expriment leurs opinions sans violence. Donc vous aussi, nous vous rappelons que vous aussi vous avez les moyens d'agir en faveur de la liberté d'expression en Égypte et ainsi que des autres défenseurs des droits. On vous donnera tout à l'heure un autre exemple de
Oui, mais on peut déjà, d'ores et déjà, sur cette situation, aller sur le site d'Amnesty.fr.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Pour signer une pétition à l'adresse du président, bien sûr, égyptien, voilà. Pour demander la libération
d'Amal Fathi.
Voilà.
Sur Amnesty.fr.
Donc nous allons maintenant faire une petite pause musicale et écouter un morceau, une chanson qu'a écrite Angélique Guidjo. C'est une béninoise qui a beaucoup œuvré en direction des femmes. Et là, elle chante une chanson qui s'appelle Eva avec une seconde personne qui veut évoquer le thème de l'importance d'avoir une amie sur qui s'appuyer.
Wishing for a friend, someone to call my own. Who's there for me? I have no bound and can't be sold. Give me a friend who's gonna catch me when I fall. Oh, when I fall. Onto the light.
Donc, amis auditeurs de Radio Albigès, vous êtes en train d'écouter l'émission donc, du groupe d'Amnesty International d'Albi, qui est une émission mensuelle sur les droits de l'homme. Et nous venons d'entendre une chanson d'Angélique Kidjo qui s'intitule Eva et qui porte sur l'amitié au niveau des femmes. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup été, qui a été très sensible aux situations des femmes. Elle a été au Darfour, elle a été au Kenya. Et elle est ambassadeur auprès de l'UNICEF au niveau international. Donc ça nous semble intéressant de parler, d'entendre chanter toutes ces difficultés dont on parle plus concrètement. Et on va y revenir avec une nouvelle situation, une deuxième situation donc des défenseurs des droits humains. Et là, comme on parle beaucoup en ce moment d'Arabie Saoudite, je trouvais que c'était intéressant de citer un exemple. Comment, ce qui se passe concrètement en Arabie Saoudite, en particulier pour les femmes.
Oui, pour les femmes, c'est très compliqué en ce moment en Arabie Saoudite. Donc, je vais parler de trois femmes en particulier. Donc, il s'agit de Loujain Al-Atloul, Iman Al-Afjan et Aziza Al-Youssef, ainsi que 19 autres défenseurs des droits humains qui ont été arrêtés en mai dernier, mai 2018. Donc, ces activistes militent depuis plusieurs années pour que les femmes aient le droit de conduire, tout simplement, en Arabie Saoudite et pour qu'il soit mis fin au système répressif de tutelle masculine dans ce pays, donc, qu'on connaît déjà, hein, pour cette tutelle masculine qui est terrible. Alors, elles ont été emprisonnées un mois avant la mise en œuvre du décret d'application permettant enfin aux femmes de conduire en Arabie Saoudite. On en a parlé récemment. Ouais. Mais quand même, les accusations mensongères et diffamatoires dont elles sont la cible, ont été relayées par les médias affiliés au gouvernement. Cette campagne en fait de diffamation lancée par l'État saoudien vise à discréditer ces femmes et les faire passer pour des traîtres ou bien des agents de l'étranger comme en Russie qui représentent une menace pour la sécurité nationale, pour la stabilité du pays, de la paix sociale. Donc voilà, détenues jusqu'il y a peu dans un endroit secret, sans accès à un avocat, sans contact avec leur famille, aujourd'hui nous savons enfin qu'elles se trouvent dans la prison de Djeddah et qu'elles peuvent communiquer par téléphone avec leur famille, déjà c'est pas mal, selon un agenda très très strict. Bon, ces femmes devrait être derrière le volant, bien sûr, et pas derrière les barreaux. D'autant plus que ce décret d'application est passé, que il n'y a plus lieu de condamnation. Enfin, voilà. Donc nous, Amnesty International, nous proposons. Ah oui. Très important, elle risque quand même jusqu'à 20 ans de prison. Il n'y a pas encore eu la sentence, mais risquer jusqu'à 20 ans de prison parce qu'on est une femme et parce qu'on ose conduire en Arabie Saoudite, c'est quand même, en 2018, c'est quand même énorme. Donc nous, Amnesty International, nous proposons une pétition, un courrier que nous adressons directement au roi d'Arabie Saoudite. Alors, que je vais vous présenter très rapidement. Donc, la lettre en question, c'est alors, Majesté, fin mai dernier, trois femmes défenseurs des droits humains ont été arrêtées avec d'autres militants. Il s'agit des trois femmes que je vous ai citées tout à l'heure, qui, donc femmes saoudiennes qui sont enfin autorisées à conduire depuis le 21 juin 2018. Ces militantes courageuses qui ont activement fait campagne pour ce droit sont aujourd'hui accusées publiquement de représenter une menace pour la sécurité nationale et risquent jusqu'à 20 ans de prison. Amnesty International considère que ces femmes ont été arrêtées pour les punir de leurs activités pacifiques de défense des droits des femmes. Aussi, je vous demande de libérer immédiatement et sans condition ces trois personnes. Dans l'attente de leur libération, vous assurez qu'elles aient accès sans restriction à leur famille et à leur avocat et les protéger contre toute forme de torture et de mauvais traitements. Voilà, donc je vous prie de recevoir, Majesté, l'expression de ma haute considération et vous pouvez signer cette pétition sur le site amnesty.fr.
Montrer qu'il y a des situations difficiles, bien sûr, mais que les actions amènent aussi quand même des bonnes nouvelles. Donc on en prend deux. Voilà. C'est des petites. Bon, mais ça fait rien, ce sont toutes importantes.
Ce sont deux femmes encore. En Ukraine, Vitalina Koval et un certain nombre de militants et militantes des droits des femmes et des LGBTI ne sont plus considérés comme menacés de violence comme ils l'étaient depuis les agressions de la Journée internationale des droits des femmes en Ukraine le 8 mars. Vitalina a bénéficié des mesures de protection satisfaisantes lors d'une action le 31 mars qui appelait à mettre fin à l'impunité pour les groupes d'extrême droite. Vitalina Kova a dit à Amnesty International que les mesures prises par la police pour assurer la protection des manifestants le 31 mars sont en grande partie dues au nombre d'appels que les policiers ont reçus. Ils ont été inondés, dis donc. Voilà. Recevoir ce soutien, dit-elle, fait chaud au cœur. Quand vous voyez qu'autant de personnes vous soutiennent, cela vous aide à vous calmer, à prendre confiance et cela vous donne la force d'avancer.
Ça, voilà une première bonne nouvelle. Une seconde, on se porte en Chine.
En Chine. Alors, Liu Xia a enfin été autorisé à quitter la Chine. Il faut savoir, pour se rendre en Allemagne le 10 juillet 2018, après 8 ans d'assignation illégale à domicile, car Liu Xia est la femme du prix Nobel de la paix, mm-hmm. son mari... Liu Xiaobo, qui est mort en prison. Elle a été libérée 3 jours avant le premier anniversaire de la mort de son mari. Elle était étroitement surveillée, on se demande pourquoi d'ailleurs, par les agents de la sécurité de l'État, et seuls ses amis les plus proches pouvaient la contacter par téléphone dans des circonstances bien précises.
Et nous allons rester en Chine pour parler d'une situation dont la presse fait peu d'écho, puisqu'il s'agit des personnes plutôt musulmanes.
C'est ça.
On dénombre à peu près 1 million de personnes environ.
C'est ça.
Elles seraient détenues dans des camps dans le nord-ouest de la Chine.
C'est ça. Tout à fait. Alors, malgré les bonnes nouvelles et les résultats qu'on peut avoir, on a encore beaucoup de travail, notamment en Chine, du coup. Effectivement, les chercheurs aujourd'hui considèrent qu'environ 1 million de personnes musulmanes sont, en tout cas musulmanes pour la plupart, seraient détenues dans des camps d'internement, comme on les appelle, au Xinjiang, donc c'est effectivement au nord-est de la Chine. A priori, il s'agirait de populations ouïghours, kazakhs et d'autres ethnies qui sont gravement menacées actuellement. Donc il s'agit de centaines de milliers de familles qui ont été déchirées par cette répression massive, puisqu'elles elles désespèrent en fait de savoir ce qui est arrivé à leurs proches, et il est grand temps que les autorités chinoises leur donnent des réponses concrètes. En outre, les démonstrations publiques ou même privées d'appartenance religieuse et culturelle à l'islam peuvent être considérées par les autorités comme entre guillemets extrémistes, donc on va le voir. Dans un premier temps, depuis un an, on sait que les autorités chinoises mène une campagne de plus en plus intense d'internement en masse, de surveillance intrusive et d'endoctrinement politique et d'assimilation culturelle forcée à l'encontre des Ouïghours, des Kazakhs et des autres groupes ethniques majoritairement musulmans vivant dans cette région-là, au nord-ouest de la Chine. En fait, les démonstrations publiques ou même privées d'appartenance religieuse et culturelle, parmi lesquelles les barbes entre guillemets anormales, le port d'un voile ou d'un foulard, les prières régulières, le jeûne, le fait de s'abstenir de boire de l'alcool, ou encore la possession de livres ou d'articles relatifs à l'islam, ou à la culture même ouïghour, peuvent être considérés par le gouvernement, par les autorités, comme extrémistes. Ainsi, donc, les voyages à l'étranger pour le travail ou même pour les études, en particulier dans des pays à majorité musulmane, donc un Chinois qui souhaiterait se rendre en Arabie Saoudite, imaginons, alors là, continue également et de plus en plus d'être source de motifs de suspicion. Alors, hommes ou femmes, jeunes ou âgés, citadins ou ruraux, tous les citoyens risquent un placement en détention dans ces cas-là.
Oui, et alors, Zakar, justement, sur ces camps de détention, est-ce qu'on a des précisions un petit peu pour indiquer, effectivement, parce que rétention ne veut pas dire forcément empêchement de, enfin, plus de liberté.
Privation etc. de liberté. Rétention, ouais. Rétention égale privation de liberté. Et là, on est dans ce, exactement dans ce cas-là. Les autorités, en fait, désignent les camps d'internement sous le nom de centres, entre guillemets, de centres de transformation par l'éducation. Bon, en fait, ils sont surnommés camps de rééducation. Il s'agit donc de camps de rééducation. Bon, il ne s'agit pas tellement d'éducation. En tout cas, ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est que les personnes envoyées dans ces camps ne sont pas jugées, déjà. Donc on prive quelqu'un sans jugement, quelqu'un de liberté sans jugement, et elles sont également privées d'accès à des avocats ou du droit de contester leur placement en détention. Ce qui est très grave, hein, en soi, au niveau du point de vue du droit international. Elles peuvent languir ainsi en détention pendant des mois, car ce sont les autorités chinoises qui décident du moment où une personne est, entre guillemets, transformée.
Alors, tu peux nous donner l'exemple de quelqu'un qui serait dans cette situation ?
Tout à fait, tout à fait. Il s'agit de Khairat Samarkan, qui a été envoyé dans un camp de détention en octobre 2017, après être rentré au Xinjiang, donc nord-ouest de la Chine. Et cette personne, en fait, à l'issue d'un court séjour au Kazakhstan, elle rentre en Chine et la police lui a indiqué qu'il était placé en détention car il était accusé de posséder la double nationalité et aurait trahi son pays, du coup. Il a quand même été libéré en février 2018, mais il a pu témoigner. Donc il raconte qu'on lui avait placé une cagoule sur la tête, entravé les bras et les jambes, qu'on l'avait forcé à rester debout dans une position fixe pendant 12 heures d'affilée lors de son arrestation. Il nous dit qu'il y avait environ 6000 personnes dans le même camp où elles étaient contraintes de clamer des chants politiques et d'étudier des discours du Parti communiste chinois. Elle ne pouvait pas se parler devant et devait scander longue vie à Xi Jinping, donc ouais. Responsable de tout ça d'ailleurs. Mmh. Et voilà, donc des conditions atroces. Et il avouait d'ailleurs que suite à ces conditions, suite à tous ces mauvais traitements, ça l'avait conduit à tenter de se suicider juste avant sa libération. Bon, il a bien fait parce que maintenant il peut nous en parler, il peut remonter cette épreuve. Les détenus, en tout cas, qui résistent, on ne montre pas suffisamment de progrès, entre guillemets, pour les autorités, subiraient donc des punitions comme des insultes verbales ou privation de nourriture, des détentions à l'isolement, des coups, de la torture, quoi, dans des positions douloureuses, donc tout ce qui est mauvais traitement. Donc, on a des cas de mort d'ailleurs, de mort en détention, puisque dans des centres, il nous a été signalé notamment de suicides de personnes qui ne supportaient plus les mauvais traitements. Donc ça, c'est arrivé. Les autorités affirment néanmoins que ces mesures extrêmes sont indispensables pour lutter contre le terrorisme et assurer la sécurité nationale.
Oui, mais alors, les familles de ces personnes, comment vivent-elles cette situation d'une part de séparation, de méconnaissance, d'inconnu devant leur départ, leur disparition, voire.
Tout à fait. Les familles, c'est atroce parce que les familles n'ont accès à rien en termes d'information. Toutes ces mesures de la part des autorités chinoises ont un lourd impact sur les familles, puisque pendant des mois, les familles donc des personnes portées disparues ont gardé leur angoisse pour elles. Elles espéraient que la perte de contact avec leurs proches dans leur pays d'origine soit temporaire. Elles craignaient d'aggraver la situation si elles cherchaient à obtenir une aide extérieure. Donc, en même temps, elles n'osent pas intervenir, mais elles restent dans le flou le plus total. À présent, sans signe d'une fin prochaine de leur supplice, elles sont de plus en plus nombreuses à s'exprimer. Donc on a quand même des témoignages. Par exemple, Bota Kusian, qui est membre de l'ethnie kazakh étudiante à l'université d'État de Moscou, a parlé pour la première fois de son père sur Internet en novembre 2017, ce qui fait quasiment un an d'absence d'informations à son sujet. Sujet de son père, qui a été arrêté. Donc il est originaire de l'ethnie ouïghour et leur famille a déménagé au Kazakhstan en 2013. Selon cette personne, son père a été envoyé dans un camp de rééducation, comme on dit. Donc, puisqu'elle nous dit que son père donc est retourné en Chine à la fin de l'année 2017 pour voir un médecin, tout simplement, mais les autorités ont confisqué le passeport de monsieur après son arrivée dans cette région autonome. Et donc Bota Koussian, la fille, a appris par des proches habitants sur place que son père en fait avait été envoyé dans un arrêté et envoyé dans un camp de rééducation. Depuis donc ses proches en fait avaient tellement peur que tout autre contact avec cette famille ne leur vaille d'être suspecté, donc ils ont arrêté de parler avec elle. Donc elle ne sait même pas où il se trouve, elle ne sait pas s'il est encore vivant, elle n'a aucune information à part qu'il se trouverait dans ce camp. Donc elle déclare, je cite, « Mon père est un simple citoyen, nous étions une famille heureuse avant qu'il ne soit arrêté. Nous vivons dans la peur chaque jour, cela fait énormément de mal à ma mère. Nous ne savons pas où il se trouve, nous ne savons même pas s'il est encore vivant et je voudrais revoir mon père. » Donc de nombreux parents sont ainsi établis à l'étranger et expriment un sentiment de culpabilité car il semble que ce sont précisément ces liens en dehors de la Chine qui valent dans de nombreux cas à leurs proches vivant dans la région autonome donc de Xinjiang d'être suspectés.
Et alors justement ce fait-là, est-ce que les autorités n'en profitent pas pour exercer des pressions sur les personnes qui sont restées chez elles ou dans leur pays pour pouvoir les recruter éventuellement?
Tout à fait. Il y a beaucoup de suspicions par rapport à ça et beaucoup de pression sur ces communautés puisque les autorités les accusent d'être liées à des organisations étrangères qui diffuseraient des opinions religieuses extrémistes pour les musulmans ou complotent des activités terroristes. Donc voilà, l'islam, enfin les musulmans, population là vraiment, vraiment affectée par cette politique. De plus, on sait aujourd'hui que d'exercer ainsi une pression sur les personnes vivant en dehors du pays, ça va menacer. Donc, on va menacer de voir les membres de leur famille habitant la région, et on va continuer à les mettre en détention si elles ne coopèrent pas. Donc, on cherche la coopération de ces populations. Sinon, c'est la force. En revanche, si elles coopèrent, on leur promet que les proches seront traités avec indulgence. Bon, c'est un peu la carotte, mais c'est vrai que le fait d'ignorer qui au sein de la communauté établi à l'étranger pourrait fournir des informations aux services de sécurité chinois, crée une suspicion et une méfiance qui s'enracine et alimente énormément le sentiment d'isolement et de crainte. Donc la campagne de répression systématique menée par les autorités chinoises a des effets dévastateurs sur la vie de millions de personnes. Et nous pensons vraiment qu'il est temps que les autorités chinoises disent la vérité sur les camps et laissent les familles se réunir.
Voilà, il nous semblait important de vous faire part un petit peu de ces situations dont on ne parle pratiquement pas, mais qui sont absolument désastreuses. De cette émission, nous ne pouvons pas ne pas évoquer l'attribution récente du prix Nobel de la paix 2018, qui a été attribué à deux militants, que nous estimons militants, un médecin congolais d'une part, Denis Mukwege, et la militante yézidi Nadia Mourad, qui lutte contre le viol dans leur pays à leur façon. Patricia, peut-être tu nous donnes quelques éléments.
Alors, le médecin congolais qui s'appelle donc Denis Mukwege, et qui depuis très longtemps travaille, et on l'appelle l'homme qui répare les femmes. C'était
On a passé le film, ça a provoqué un débat il n'y a pas longtemps.
C'est-à-dire que toutes les femmes qui ont été violées par comme instrument de guerre, en fait. Oui, dans le viol, c'est pour nous là. Et c'est une arme de guerre, le corps des femmes, un champ de bataille, dit-il. Donc ce docteur a créé un hôpital à Panzi. Il est gynécologue obstétricien. Il répare le corps mutilé des femmes depuis très longtemps. En 15 ans, plus de 40 000 femmes victimes de violences extrêmes ont été prises en charge. Parce qu'il n'y a pas que c'est la énorme chirurgie, il y a tout le soutien. C'était vraiment un homme extraordinaire et ça fait plusieurs années qu'on espérait qu'il aurait le prix Nobel de la paix. Et quand il l'a reçu, il était en train d'opérer. C'est donc un remarquable défenseur des droits humains qui est un exemple pour nous autres. Et puis, il a eu ce prix avec Nadia Murad, parce que c'est elle qui a révélé toutes les horreurs inimaginables subies par les femmes et les filles yézidites retenues en captivité et utilisées comme esclaves sexuelles en Irak par l'État islamique. Vous vous souvenez de ça quand même?
Oui, oui, tout à fait, bien sûr.
Donc c'est elle, elle s'est exprimée devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a décrit ce qu'elle a elle-même vécu ouais, et ouais. Parce qu'elle a été enlevée, forcée. Vendu. Et donc, vendue, enfin, toutes les horreurs qui ne devraient plus exister à notre époque, mais ça nous fait revenir vraiment en des temps très anciens. Voilà, donc, faut se souvenir, Denis Mukwege et Nadia Murad.
Notre émission se termine, donc avant de vous donner... notre au revoir, quelques échos quand même des activités qui ont eu lieu là récemment. Nous avons participé à la manifestation pour la paix où il y avait plusieurs stands sur la place de la Panouse, 22 septembre, voilà. On a pu rencontrer un certain nombre de personnes, mais on sent bien qu'il y a des contacts, mais que c'est pas toujours très simple. Il faut vraiment discuter, aborder, enfin bon, voilà. Et puis nous avons eu une compétition à Aiglaise le 7 octobre dernier, qui est un petit peu en mémoire de Terry et puis de Jean-Pierre Hugo, anciens militants d'Amnesty, qui sont décédés il n'y a pas très très longtemps. Et c'est une compétition de golf pour soutenir les droits de l'homme. Donc, ce 7 octobre, il a plu beaucoup. Eh bien, ça n'a pas arrêté les golfeurs
qui ont joué
et qui étaient très très contents de la fin de cette journée. Bon, là, du coup, le soleil était revenu. Et d'avoir passé un bon moment. Ça a été l'occasion de parler un peu et de leur proposer aussi signature quelques pétitions. Et donc, nous sommes très, très contents de cette journée. Nous sommes allés aussi dire un mot sur à la salle Arcé, à l'occasion de la projection du film Parvana, sur la situation des enfants, des filles, des petites filles en Afghanistan. Donc voilà un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc vous avez vu qu'on a évoqué un certain nombre de situations des défenseurs des droits humains, donc ils doivent bien sûr progresser. Il faut continuer à agir avec Amnesty International et faire pression partout dans le monde sur les autorités pour que cessent les atteintes aux droits et libertés. Donc vous pouvez intervenir, on l'a évoqué mais on le redit, sur ces situations en signant les pétitions en ligne sur le site amnesty.fr. Vous aurez aussi bien sûr de l'information. On a évoqué le dossier des populations musulmanes en Chine par exemple.
Oui.
Il y en a d'autres hein, bien sûr. Donc après, si vous souhaitez agir alors localement avec le groupe d'Amnesty, ben n'hésitez pas, voilà notre téléphone, c'est le 06 30 67 87 35, plus simplement peut-être par courriel, vous nous adressez un message, on vous contactera, amnesty.albi@laposte.net. Bon, vous pouvez aussi trouver écho de nos actions locales sur le blog d'Amnesty que vous trouverez par moteur de recherche sans problème. Merci donc de nous avoir écoutés et de nous faire part de vos commentaires et suggestions à ces mêmes adresses. Et n'oubliez pas,
vos signatures ont du pouvoir.
Merci au groupe Amnesty International d'Albi pour la réalisation de cette émission. On vous rappelle que vous pouvez la réécouter en podcast en passant par notre site internet www.radioalbiges.com. Également sur notre site, vous pourrez écouter, si vous souhaitez en savoir plus, une émission consacrée à Nadia Murad, prix Nobel de la paix 2018 dont il a été question dans cette émission. Cette militante irakienne d'origine kurde et issue de la communauté yézidi est la plus jeune personne à avoir reçu donc cette distinction. C'était le 8 octobre dernier, à seulement 25 ans. Cette ancienne prisonnière de Daesh combat l'usage des violences sexuelles comme arme de guerre. Retrouvez donc cette émission réalisée par Will sur le www.radioalbiges.com. Merci à vous, Adicias et Bounescuto.